Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Je tiens tout d'abord, avant toute chose, à remercier le Rav et son épouse de nous accueillir dans leur Beit HaMidrash à la DE, d'accueillir ce séminaire et d'y participer. Ça me touche beaucoup. Merci énormément à vous pour votre participation et pour votre accueil exceptionnel. Je cherche à mettre du sens. Ce projet de séminaire, c'est une émanation de politique et de son comité scientifique avec Nicolas, Joe, Avishak, Yael Semama et Claude Rivlin. Et donc on a commencé ce thème, cette thématique de la politique juive en exil il y a tout juste un an, Happy Birthday, c'était le 13 janvier dernier, grâce à l'œuvre de Danny Trom, Persévérance du fait juif, qui nous a donné de quoi réfléchir. Et depuis, on prend vraiment notre pied depuis un an, et là c'est la 11e séance, donc on est vraiment sur une fois par mois. Merci beaucoup encore, Danny, d'être avec nous lors de toutes ces séances. Alors, on a l'extrême honneur cet après-midi d'accueillir peut-être l'un des plus grands philosophes français et spécialistes de Franz Rosenzweig. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne suis pas allemand du tout. Gérard Benchisson, qui est professeur de philosophe à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, et mon spécialiste de Benchisson. Je ne vais pas épiloguer dessus, on est en tout cas très honoré, et il va nous faire un exposé sur l'histoire, la politique et le messianisme vu par Franz Rosenzweig. Merci beaucoup, Gérard Benchisson.
Merci, cher Alexandre, merci pour cette invitation. Merci aussi au Rav Gronstein qui accueille cet exposé et cette discussion. Et merci d'avance pour leur écoute aux quelques amis qui sont ici. Ce que je voudrais essayer de faire, peut-être de façon un peu plus précise que le titre que j'ai donné un peu rapidement à la hâte, comme ça, à Alexandre, lorsqu'on en avait parlé. Ce que je voudrais donc essayer de faire, c'est tenter de cerner ou d'aborder la question politique, la question du politique ou de la politique, chez Rosenzweig, ce qu'on peut y trouver en creux ou parfois de façon explicite, et peut-être ouvrir, mais je pense que ce sera davantage le cas dans la discussion, à ce qu'Alexandre vient d'appeler une politique juive, de l'exil ou en exil. On y reviendra peut-être ensemble après l'exposé lui-même. Pour entrer dans le sujet, j'avais le choix entre deux façons de faire. Soit partir d'une peut-être un peu incertaine politique juive et en tirer quelques conclusions philosophiques plus vastes quant au statut même de la politique ou du politique, ce qui semble correspondre plus ou moins d'ailleurs à la trajectoire de Rosenzweig lui-même. Ou bien à l'inverse, partir d'un certain nombre de linéaments de la pensée rosenzweigienne, toujours de la politique, du politique, et pour autant qu'il y a quelque chose de ce type, je vais y venir, pour essayer de dire à partir de là quelque chose des problèmes, questions juives de la politique, le sionisme, l'assimilation, le messianisme, etc. C'est plutôt cette seconde voie que je vais tâcher d'emprunter. Pour autant, en même temps, il y a là d'emblée une difficulté qui est de type épistémologique, si vous voulez. C'est-à-dire comment séparer la question du statut de la politique et du politique, d'une part, et les questions politiques juives, par ailleurs, comment les séparer et en même temps, comment ne pas les associer. C'est donc une difficulté, et du coup, les deux voies que je viens d'indiquer, je les parcourrai de façon un peu chaotique, parfois en allant d'un chemin à un autre. Cette difficulté que je viens d'appeler une difficulté ou un obstacle épistémologique, elle vient peut-être d'une difficulté de départ, qui n'est pas une difficulté d'ailleurs à proprement parler, mais dont il faut dire un mot avant même de commencer. c'est la chose suivante, une sorte de préalable de méthode, mais pour ceux qui ont lu un petit peu Franz Rosenzweig, c'est quelque chose qui va de soi. Cette pensée de Rosenzweig ne constitue en aucune façon une philosophie politique, au sens strict du terme. La philosophie politique proprement dite, au sens strict que je viens d'indiquer, dans sa tradition et dans son histoire, qui remonte bien sûr évidemment aux Grecs, la philosophie politique vise l'accomplissement d'une vie bonne pour des sujets qui sont réputés ou qui sont censés, qui sont présupposés être déjà constitués politiquement, en tant que qu'être de cité, pour reprendre la détermination grecque. Donc cette rationalité de la philosophie politique, cette longue tradition dans l'histoire de la philosophie elle-même, cette rationalité s'exerce donc depuis une sorte d'autonomie du champ de la politique, depuis des lieux propres. Lévinas a dit ça d'un mot, c'est pas une définition qu'il propose, mais c'est une sorte de détermination ultra synthétique de ce qu'est la philosophie politique. Il appelle ça tous ensemble dans un lieu. Tous ensemble dans un lieu. Ce serait ça, le champ même de la philosophie politique. Je parle de la philosophie politique au sens strict, au sens où l'histoire de la philosophie l'a déterminée depuis les Grecs. Tous ensemble dans un lieu, c'est-à-dire, au fond, ensemble, rassemblement, plus territoire. Et en même temps, synchronie ou synchronisation des deux. Le peuple et la terre, hein, pour le dire de façon très très rapide. Alors, l'approche rosenzweigienne de la politique ne correspond absolument pas à ce que je viens de dire pour essayer de qualifier très très vite, très grossièrement, la philosophie politique. Cette approche rosenzweigienne, on peut dire qu'elle est aléatoire, qu'elle est, je viens de parler de synchronie peuple-terre, qu'elle est diachronique, qu'elle est messianique, mais dans un sens limité et qu'il faudra évidemment préciser. En tant que messianique ici, s'oppose déjà d'emblée à ce qui se détermine dans la tradition comme philosophie politique. Pour marquer ce contraste entre la philosophie politique donc, et la pensée de la politique et du politique chez Rosenzweig, on pourrait dire, pour faire saisir très vite, parce que ce n'est pas mon objet non plus, c'est juste quelques éléments introductifs, on pourrait décrire cette contradiction, ce contraste, cette contrariété entre les deux, de la façon suivante. La tradition de la philosophie politique présuppose quelque chose de commun. Un commun préalable, un commun déjà donné, par exemple ce qu'Aristote appelle « zoon politikon », c'est-à-dire une politicité naturelle qui forme la condition de possibilité de la philosophie politique, dont la tâche serait ensuite d'essayer de partager et de penser les modalités de partage de cela qui est commun. Pour Rosenzweig, l'humain de l'homme, pour utiliser une expression qui est de Lévinas, mais qui n'est pas de Rosenzweig, mais si je me permets de l'utiliser, c'est qu'on a là des choses qui sont très connexes. Pour Rosenzweig, l'humain de l'homme se tient, ou se tiendrait, si on vise sa détermination politique, se tiendrait dans une tentative qui est pratiquement l'inverse de ce que je viens de dire de la philosophie politique, comme une politicité commune, un commun préalable donné qu'il s'agit ensuite de partager. Là, ce serait presque le contraire. L'humain de l'homme, si on essaie de le déterminer politiquement, est constamment bordé par de l'inhumain. Cette tentative, cette pensée de la politique, cette tentative rosenzweigienne, on peut lui associer jusqu'à un certain point Lévinas, c'est ce que je suggère, je n'y reviendrai pas. Cette tentative consistera à s'efforcer de produire la mise en commun de ce qui est d'emblée clivé, disséminé, sans identité assignable a priori. Elle va donc consister, alors là, s'agissant de Rosenzweig plus précisément, cette pensée de la politique va consister à essayer de déterminer, de réfléchir ce qu'est le faire politique. dans ses temporalisations singulières, ça c'est Rosenzweig, dans ses grandes séquences, dans ses événements et ses interruptions, avec la certitude du caractère éphémère de l'œuvre politique, si je peux dire la chose comme ça, et du caractère passager de la politique elle-même, qu'il faut faire malgré tout, dit Rosenzweig. Je reviendrai sur cette formule, c'est un point très important. Le premier point sur lequel je voudrais m'engager, c'est la question de l'extra historicité, politicité, étaticité, etc., qui porte cette pensée rosenzweigienne du politique. Cette approche donc de la politique, comme je viens de la décrire, elle se soutient, c'est ce que j'essaie de suggérer en commençant, en me posant la question de savoir comment articuler ou désarticuler la politique juive de ce qui est déterminé comme philosophie politique dans une certaine tradition, ou pensée du politique plus largement, chez des gens comme Claude Lefort, etc. Cette approche de la politique, elle se soutient donc d'une grande hypothèse, qui est l'hypothèse porteuse au moins d'un tiers de l'étoile de la rédemption, une grande hypothèse selon laquelle, pourrait-on dire, l'histoire n'est pas toute dans l'histoire. Cette hypothèse, qui est assez classique dans la tradition juive, je me réfère à ce qu'en dit par exemple, mais il n'est pas le seul, Yerushalmi, cette hypothèse provient donc d'une théorie qui est aussi développée dans l'Étoile de la Rédemption, de l'extra-historicité foncière du peuple juif. Le peuple juif, ou peuple éternel, on va voir pourquoi c'est la même chose sous la plume de Rosenzweig, il faut peut-être y mettre des guillemets au moins provisoires, parce qu'il ne s'agit pas d'une réalité ethnique, ethnographique, empirique, ou sociologique ou historique, il s'agit de quelque chose qui a été qualifié par Ricoeur. Ricoeur dit que ce que fait Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, c'est de dresser le portrait métaphysique, dit-il, du juif. Ce qui n'éclaire pas de toute façon davantage la question, mais en tout cas, c'est vrai que le peuple juif ou le peuple éternel, ça ne renvoie pas, si vous voulez, à une réalité socio-historique contingente et donnée dans telle ou telle situation historique. Donc, il y aurait, ce qui nous obligera à revenir sur ce que ça veut dire, hein, y compris dans la définition de Ricoeur, qui me paraît pas forcément clarifiante. Il y aurait donc une extra-historicité fondamentale du peuple juif, parce que le peuple juif est soumis à une loi, la Torah, bien sûr, à une loi qui le fait échapper au perpétuel renouvellement, aux transfigurations, aux transformations incessantes du politique. Ce politique étant lui-même, par ailleurs, gouverné, lui aussi, par une loi ou par des lois, mais tout autre que la Torah. Loi avec laquelle les Juifs ont aussi affaire. Ce qui les met d'emblée, on peut d'emblée comprendre qu'ils sont dans une situation singulière, puisqu'ils ont rapport à la loi, et évidemment à la loi du royaume, hein, comme dit l'adage. Donc le peuple juif, dans cette première détermination chez Rosenzweig, le peuple juif est à la fois le moins installé du monde, mais en même temps le plus installé dans ce que Rosenzweig décrit comme les formes anticipées de son éternité. C'est pour ça qu'il en parle comme du peuple éternel. Ces formes d'anticipation imaginaire de l'éternité, Rosenzweig les décrit très longuement, j'ai pas le temps d'y venir ici, sauf peut-être dans la discussion. Il les décrit à partir de son analyse de l'année liturgique juive. C'est-à-dire que cette éternité imaginairement anticipée est, à vrai dire, toujours présente, toujours déjà présente dans le suspens symbolique du temps qui est effectué par la liturgie du judaïsme. Ça va évidemment de du Shabbat au Yom Kippour, avec toutes les solennités religieuses qui sont entre... j'ai pas le temps d'analyser ça ici. Donc, le peuple juif, toujours dans la détermination de Rosenzweig, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est de ça qu'il s'agit, hein, le peuple juif est étranger aux lois, étranger au territoire, étranger aux lois que par ailleurs il doit respecter, étranger au territoire que par ailleurs il habite, étranger aux langues des peuples parmi lesquels il vit, langues que par ailleurs il parle. Il mène donc une vie séparée. Vous voyez déjà que le peuple juif dont parle Rosenzweig, c'est celui qui est évidemment, qui pratique et qui suit très précisément les commandements de la Torah. Il ne s'agit pas des juifs au sens sociologique, il y a évidemment un rapport entre ces fractions, qui ne sont pas des fractions du peuple juif. Hein. Mais le peuple juif qui est ici ciblé, c'est celui qui est Shomer Shabbat pour commencer, etc. Celui qui pratique très précisément l'ensemble des mitzvot. Ce statut séparé détermine ce qu'on appelait naguère, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, il me semble, le diasporisme de Rosenzweig, ou en tout cas ce qu'on a appelé, ce qui est une question, peut-être qu'on y reviendra, son antisionisme. Mais cet antisionisme, évidemment, chacun aura compris qu'il ne s'agit pas du tout je ne fais pas usage de ce syntagme au sens journalistique contemporain, ça n'a strictement rien à voir, ça veut dire simplement que cette existence séparée est fondamentalement et essentielle à l'existence juive elle-même, à l'existence du peuple juif lui-même. Mais cet antisionisme, au sens où on peut parler d'un antisionisme de Rosenzweig, c'est aussi celui de la tradition, d'une certaine manière, hein, depuis Samuel, depuis Jérémie, ou même depuis l'Ech Lecha de Bereshit, hein, depuis le commencement. D'ailleurs, Rosenzweig a cette phrase, il dit « Abraham, notre père à tous, était un immigré ». C'est tout à fait clair. Même chose avec Jacob qui s'exile, Joseph en Égypte. Enfin, au fond, toutes les histoires bibliques sont des histoires d'immigrés, hein, pour reprendre le mot de Rosenzweig, ou en tout cas de départ. Le judaïsme, pourrait-on dire, c'est l'exil. Voilà. Fondamentalement, ça c'est un point qu'on trouve, je crois, documenté dans la tradition elle-même, mais qui est rappelé avec beaucoup de force dans l'Étoile de Rédemption. Quitter le pays, vivre en étranger sous le joug des lois, des empires, des royaumes, survivre sous certaines conditions qui relèvent d'une transaction, et bien sûr, cette idée d'exil, c'est pas une idée, cette réalité de l'exil, entre en même temps sans cesse en tension, c'est ça le peuple juif, entre guillemets, elle entre en tension avec, là c'est une idée, l'idée messianique du retour. On pourrait dire qu'il y a une sorte de dialectique, mais au sens le plus faible du terme, hein, pas du tout au sens spéculatif fort, quelque chose comme des allers et retours, justement, entre l'exil et la venue du Messie et le retour. Dans les temps modernes, c'est-à-dire depuis la Renaissance et la Révolution française, cette extériorité du peuple juif à l'histoire, parce que c'est essentiellement ça que j'ai rappelé pour l'instant, cette extériorité foncière est avant tout une extériorité par rapport à l'État. Une auto-exception, dit Rosenzweig, il y aurait une auto-exception juive à ce qu'il appelle la satisfaction nationale, guerrière, qui serait procurée par l'État au peuple du monde. Il y a toujours ce contraste entre le peuple éternel ou le peuple juif et les peuples du monde. L'État, je lis les choses rapidement parce qu'il y a une pensée très forte de l'État chez Rosenzweig, qui est pas sans faire songer à ce qu'on peut trouver également chez Walter Benjamin, mais qui avait lu ces passages chez Rosenzweig, enfin, il y a une dette qu'il reconnaît lui-même assez aisément. L'État explique Rosenzweig, se tient dans une relation mimétique avec l'éternité. L'éternité au sens où elle est anticipée dans le suspens du temps que met en scène en quelque sorte la liturgie du judaïsme. L'État est le rival de l'éternité, non pas au sens où, elle serait, où dans l'État l'éternité serait vécue ou prévécue, comme c'est le cas dans les fêtes juives, hein, Rosenzweig retrouve cette idée qu'on trouve chez Lévi Brull, que tout rite, dit Lévi Brull, c'est une expression de Lévi Brull, mais qui, je la cite parce qu'elle me paraît convenir parfaitement à Rosenzweig. Tout rite, je crois même que c'est la définition du rite chez Lévi Brull, je ne sais plus, ce serait la répétition d'un fragment de l'origine, dit-il. À travers ces changements perpétuels, l'État moderne, l'État-nation, c'est essentiellement celui qui sort de la Révolution française pour Rosenzweig, s'efforce à chaque fois de convertir la temporalité des peuples, l'historicité de leur monde. Rosenzweig, je ne vais pas beaucoup en parler, mais a un rapport très, très, très particulier avec Hegel, et ce que je viens de dire là, l'historicité des mondes, des peuples du monde, des peuples en général, c'est une sorte d'hegelianisme inversé. Je me souviens d'une époque où à la Bibliothèque nationale, la vieille Bibliothèque nationale, hein, donc ça c'est dire... Je viens de notre âge, en quelque sorte. Et je me souviens d'un collègue qui pensait qu'il y avait deux Franz Rosenzweig. Rosenzweig est un patronyme qui n'est pas très rare chez les juifs allemands. Il pensait qu'il y avait un spécialiste des études hegeliennes extrêmement sérieux, un grand académiqueur, comme on dit en allemand, et qu'il y avait par ailleurs un type complètement farfelu qui avait écrit un livre inintelligible qui s'appelait « Les doigts de la rédemption ». Je me souviens lui avoir expliqué que c'était bel et bien le même. Donc il y a ce rapport, évidemment, à Hegel qui est très fort dans cette pensée et qui consiste toujours à une sorte de renversement, de reprise, de déplacement. Je laisse ce point de côté. Donc l'État, c'est cette instance qui convertit la temporalité des peuples en éternité simulée, en simulacre d'éternité. Je cite une phrase de l'Étoile de la Rédemption, page 179 page 463 de la dernière édition, la seconde. L'État est la forme sans cesse changeante sous laquelle le temps se rapproche de l'éternité. C'est donc un simulacre, cet État. Et cet État se donne toujours comme l'instance de résolution enfin advenue des contradictions. Et pour Rosenzweig, je disais qu'il y avait une pensée très forte de l'État, pour Rosenzweig, ça c'est l'illusion idéologique constitutive de l'État, de tout État, et de la politique, de toute politique, révolutionnaire, conservatrice, etc. Quelles que soient les formes de cette politique, l'État, la politique, et sans pour autant que la variation et les différences entre ces formes soient négligeables, bien sûr, hein, pas du tout. L'État c'est ça, c'est une instance qui promet que les contradictions vont être résolues. Alors, dans la mesure où peuple juif, je l'ai dit, désigne quelque chose comme cette catégorie métaphysique dont parle Ricoeur, son extra-historicité, ou son extra-politicité, ou son extra-étaticité dont je viens de parler, il faut bien noter que ce ne sont pas des données contingentes ou des données qui seraient simplement qui seraient réductibles à des circonstances historiques. La dispersion des Juifs, l'exil donc, échappe aux simples déterminations historiques. Elle n'est pas un accident qu'il faudrait réparer. Là aussi, il me semble, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus compétents que moi ici parmi nous, il me semble que la pensée rabbinique rappelle ce point sans cesse. Et l'exil a même une dimension, si on songe à la tradition kabbalistique, a même une dimension cosmique. En tout cas, ça n'est pas simplement une contingence historique. Après la destruction du Second Temple, les Juifs se sont retrouvés dispersés aux quatre coins du monde, c'était la Méditerranée à l'époque, et puis voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit. cette hypothèse Rodensfaïenne, développée donc dans l'étoile, emporte une pensée de l'histoire, une pensée de l'État, une pensée du politique qui, alors c'est là où j'ai hésité dans l'exposé que je vais faire ici aujourd'hui pour vous, entre les deux approches dont je parlais en commençant. Donc il y a là une pensée de l'histoire, une pensée de l'État et de la politique qui excède sans doute les contenus descriptifs qu'elle attache au judaïsme lui-même. Si c'est pas clair, je vais prendre un exemple qui m'est suggéré par la lecture que j'ai faite pour des raisons, alors pour le coup contingentes, il n'y a pas très longtemps, du livre de Yitzhak Baer sur l'exil. Et il explique, donc le livre d'Yitzhak Baer est intéressant parce qu'au fond, évidemment, il se pose la question de ce qu'il appelle lui-même un imaginaire de l'exil, mais il se pose la question. C'est Yerushalmi qui a préfacé le livre d'ailleurs. La question du rapport des Juifs à l'histoire. Donc on est en plein dans le problème ou la question Rosenzweig. Et lui aussi, il fait une différence entre les peuples du monde, comme dirait Rosenzweig, et le peuple juif. En reprenant des textes, en particulier du judaïsme rabbinique médiéval, il explique que les peuples du monde sont soumis à des déterminations objectives, à ce qu'on pourrait appeler, de façon hegélo-marxiste, si vous voulez, des lois de l'histoire, qui sont rapportées à l'astrologie à ce moment-là au Moyen-Âge. Ils subissent l'influence des astres, en quelque sorte, mais que ce soit les astres ou la propriété des moyens de production, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des lois historiques à quoi sont soumis les peuples du monde. Et le peuple juif, lui, échapperait, en raison de la relation intime et personnelle qu'il a avec son Dieu, il échapperait à ces déterminations causales, en quelque sorte, à la causalité historique. Vous voyez, à partir de là, la question c'est de savoir si l'enseignement qu'on peut tirer de cette remarque profonde de Baer qui consonne parfaitement avec ce que dit Rosenzweig, c'est pour ça que je le convoque ici, est-ce que cette prise, cette mise en défaut des lois historiques ne concerne que le peuple juif, ou cette mise en défaut des lois historiques par le peuple juif affecte et impacte, comme on dit aujourd'hui, l'histoire elle-même, la question de l'histoire? C'est une question fondamentale. Est-ce que c'est simplement le judaïsme qui fait exception? Certes, il fait exception. Ou est-ce qu'à partir de cette exception, on peut penser quelque chose comme une exception à la règle historique? C'est le chemin que va suivre quelqu'un comme Walter Benjamin, par exemple. L'hypothèse rosenzweigienne signifie déjà une première chose, là aussi rapport avec Hegel, que je laisse de côté. Elle signifie, pour le dire dans les mots que j'ai évoqués, Yitzhak Baer, qui n'était pas un philosophe, qui était un historien, je le dis avec les mots de Rosenzweig, elle signifie cette grande hypothèse rosenzweigienne que la totalité historique ne peut pas se totaliser sans reste. C'est la question de l'exception à l'intelligibilité, l'intelligence causale de l'histoire qui est à la base de toutes les philosophies de l'histoire et essentiellement celle de Hegel, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Impossibilité pour la totalité historique de se totaliser sans reste. L'extra-historique lui-même détient une certaine efficience historique propre comme témoignage du reste. Là aussi, il y a rapport à la tradition chérite Israël, témoignage du reste qui est intotalisable, face à la totalité de l'histoire. C'est la façon rosenzweigienne de dire la différence que je viens d'indiquer à propos qu'on trouve chez Yitzhak Baer. Le peuple juif, dit Rosenzweig, se perpétue par soustraction. Ce qui est l'antonyme strict de ce qui est la règle commune de l'histoire, qui est l'expansion. au contraire. L'histoire des empires, l'histoire des civilisations, l'histoire, c'est le moteur de l'histoire, c'est l'expansion, pour utiliser une formule rapide. Or, c'est pas le cas pour le peuple juif. Le peuple juif se perpétue, et cette perpétuation, cette persévérance reste un problème, un vrai problème, qu'on peut approcher de mille façons, mais qui reste problématique, si je puis dire les choses de façon aussi tautologique. Il se perpétue par soustraction. Il se perpétue, je cite, par formation incessante de nouveaux restes. Le reste d'Israël. C'est comme dans une division. Là aussi, il y a des exemples dans la tradition où telle ou telle figure biblique sépare son clan. Comme ça, si une partie du clan est exterminée, l'autre survivra. Donc ça se passe par division au sens strict. Et dans cette division, au fond, le peuple juif ne serait même pas le quotient, mais le reste, justement. C'est-à-dire le reste à la fois extrêmement fragile et extraordinairement insistant. C'est l'oubli de ce lien complexe, selon Rosenzweig, entre extériorité à toute histoire et temporalité des guerres, des États et des révolutions. C'est ce lien complexe qui commande l'analyse que fait Rosenzweig. C'est aussi un analyste politique. Pas dans l'Étoile de la Rédemption, mais de nombreux autres textes. C'est l'oubli de ce lien qui commande l'analyse que fait Rosenzweig de la situation du judaïsme dont il est le contemporain et qui se résume en deux grandes tendances. C'est pour ça que je parlais d'oubli de l'éternité, d'une certaine façon. Il y a deux figures contemporaines d'oubli de l'éternité, l'assimilation et le sionisme. J'avais fait un mot valise un jour, assimilationnisme, en mettant un S. Ce sont deux formes, l'assimilation et le sionisme. Il y a deux grandes figures en Allemagne, au moment où Rosenzweig en parle, c'est d'un côté Hermann Cohen, patriote allemand, et de l'autre côté Scholem, qui part en Palestine dans les années 20. Ces deux figures, de figures que Rosenzweig respectait énormément, surtout Cohen d'ailleurs, sont deux formes concurrentes d'oubli de l'éternité au profit d'un réinvestissement massif par le peuple juif de l'historicité concrète de son destin, en quelque sorte. Qu'il choisisse de s'assimiler, de devenir allemand parmi les Allemands, français parmi les Français, etc., etc., ou qu'il choisisse au contraire le départ vers la Palestine. Et par ce biais particulier, Rosenzweig propose les bases, les linéaments d'une pensée antipolitique, impolitique du politique, et s'agissant des Juifs, d'une politique qu'il appelle lui-même de dissimulation, et qui serait tendue entre, Rosenzweig dit, entre l'avoir et l'attente, dit-il. C'est-à-dire entre l'avoir, avoir la révélation et attente de la rédemption, entre le dedans et le dehors, entre l'appartenance et le reste, entre le sauvetage par soustraction et la libération. Il appelle, dans un texte qui se trouve dans ce volume qui s'appelle Confluence, il appelle ça en allemand Binnenpolarité, c'est-à-dire une polarité interne à l'homme juif. L'homme au sens Mensch, der jüdische Mensch, c'est le titre de ce texte d'ailleurs. Alors, on peut essayer de résumer l'élan de ce qu'est cette politique de dissimulation en laissant résonner ensemble deux expressions qu'on trouve dans la correspondance de Rosenzweig. Il y en a une que je citais en commençant. La première expression, c'est celle que je citais justement, c'est une formule qui lui vient au fil de la plume, puisque les deux formules sont extraites de sa correspondance. Première expression, l'imitation de toute politique qu'il faut faire malgré tout. Donc, il y a quelque chose qui est à limiter et à faire malgré tout. Cette expression conjoint à la fois une politique faible, mais faible au sens où je parlais tout à l'heure d'une politique diachronique, aléatoire, au sens où on a pu parler à un certain moment d'épistémologie faible. Donc une politique faible, limitée pas l'extériorité de ce qu'elle n'atteindra jamais. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir là d'autonomie du politique, au sens où c'est un des réquisites majeurs de la philosophie politique, ce que j'indiquais en commençant. Donc, d'une part, l'imitation de toute politique par ce qu'il encercle, en quelque sorte, et d'autre part, urgence de se faire malgré tout. C'est-à-dire d'une action politique toujours requise, et à quoi on ne peut pas se soustraire. C'est ça qui est intéressant chez Rosenzweig. On ne peut pas s'y soustraire. La seconde expression commande, c'est dans un texte important, je crois que c'est un de ceux que j'ai distribué, un extrait de la lettre à Gertrude Oppenheim de 1917. Cette seconde expression recommande, je cite, d'agir toute action comme si le destin de l'humanité en dépendait. Agir toute action, c'est je traduis au plus près de l'allemand, hein, comme si le destin de l'humanité en dépendait. Et là, on retrouve l'imminence, l'urgence, la profonde incertitude qui porte tout agir, et aussi l'action politique. Il y a une urgence pratique qui est liée en même temps par le comme si. Hein. Comme si que Rosenzweig décline également comme un on ne sait jamais. Il dit on ne sait jamais si le jour. Chaque jour peut être le jour de la venue. Chaque seconde est la petite porte par où le Messie peut arriver. Mais on ne sait jamais, chaque jour ne porte pas inscrit sur son front, dit Rosenzweig, s'il est messianique ou pas messianique. Donc on ne sait jamais. Le comme si, il entend surtout dans ce sens du on ne sait jamais. C'est-à-dire que là, on a affaire à un rapport précis entre la politique et le temps, entre l'agir et la temporalité finie, entre des temps et des instants qui sont qualitativement différents, et ce rapport est lui-même envisagé chez Rosenzweig comme un rapport très singulier entre raison politique d'un côté et instantanéité éthique ou éthico-politique d'un autre côté, par où on pourrait aussi retrouver ou reconvoquer Lévinas. On a donc je parlais d'une analytique de l'agir chez Rosenzweig, on a donc un faire ou un agir qui est commandé par une imprédéterminabilité. Et cette imprédéterminabilité, ça n'est pas simplement, si vous voulez, une limite négative de l'action, c'est au contraire une condition de fécondité de toute pratique politique en particulier pour les êtres finis que nous sommes. Là encore, ce qui se rejoue, c'est cette tension que je relevais tout à l'heure, c'est cette polarité interne qui est une polarité intrinsèquement temporelle entre un impossible, une impossibilité et une urgence. Et cette impossibilité, cette urgence ne se laisse pas ajointer, mais demande à être pratiquée, en quelque sorte, demande qu'on s'y confronte. Alors, ces éléments d'une analytique de l'action, Rosenzweig, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, les investit dans des descriptions et dans des propositions qui sont très concrètes sur le judaïsme, sur le christianisme, sur le sionisme, sur le rapport à l'Allemagne et à la germanité, sur la question de l'assimilation et de la dissimulation, sur la question de la guerre, sur la question du nationalisme. Il faudrait évidemment, sur chacun de ces points, on pourrait développer un exposé. Un troisième point, après l'extra-historicité, l'agir, je reviens sur le vocable que j'ai utilisé en commençant, de messianique. Je parlais d'une politique messianique. La politique Rosenzweig, elle fait fond, bon, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, sur la situation de l'homme pris entre Dieu et monde. C'est-à-dire, cette situation est déterminée par Rosenzweig comme un être au monde, c'est un fameux existentiel, mais être au monde inachevé. L'étoile, mais ça, c'est trop, je ne vais pas m'engager là-dedans, mais il faut au moins savoir que toute la structure très complexe et en même temps très cristalline de l'étoile est déterminée par ce qui forme justement les six pointes de l'étoile, deux triangles, hein, un premier triangle Dieu-monde-homme, et un autre triangle, qu'il emprunte donc au fond à la philosophie la plus traditionnelle, et un autre triangle, création-révélation-rédemption, qu'il emprunte à la théologie la plus traditionnelle. Et chacune, création-révélation-rédemption, il s'agit à chaque fois de relations. Relations, donc il y a trois éléments qui entrent dans une combinatoire, où à chaque fois, les éléments sont combinés, associés, deux par deux. Et si je dis que la question de la politique s'inscrit dans cette situation de l'homme rosenzweigien comme être au monde inachevé, c'est que cette situation elle est circonscrite dans l'étoile par la catégorie de rédemption. Et la rédemption est déterminée comme une relation homme-monde, donc comme une relation d'où Dieu s'absente. En tout cas, paraît s'absenter. Hein. C'est encore, il faudrait. Mais alors que la révélation, c'est la relation Dieu-monde. Pardon, la création Dieu-monde, la révélation Dieu-homme, rédemption homme-monde. Donc une sorte, Dieu est comme le tiers exclu de cette relation dite rédemption. Être au monde inachevé. Pour décrire ce point, Rosenzweig convoque la notion classique, là aussi dans la tradition, qui traduit en allemand, enfin en français, qu'on a traduit par royaume, hein, Malchut. Le royaume, à savoir le monde achevé, n'est jamais là. Mais en même temps, relève Rosenzweig, ce n'être jamais là, c'est au présent que je le dis. Y compris grammaticalement. Je dis, il n'est pas là, il n'est pas encore là. C'est donc au présent que je dis une non-présence et que je dis un avenir, hein, à savoir que le monde est perpétuellement en voie d'achèvement. Cette caractérisation mondaine d'être à venir s'éprouve ontologiquement dans un présent perpétuellement renouvelé, dans des figures du présent, un surprésent, un présent, un présent, etc., où se dit pour Rosenzweig, toute relation à l'avenir. Et ce doublé, si vous voulez, achèvement-inachèvement, forme la texture même du temps, pour Rosenzweig. Temps qui est donc continuellement saturé d'attentes, d'attentes surabondantes. Et là, on retrouve cette figure générique qui est la figure du messianisme juif. La rédemption. Relation homme-monde transfigure le commandement d'aimer Dieu en le tournant selon un tropisme qui le fait déboucher sur le commandement d'aimer le prochain. C'est une figure qui se dit au neutre chez Rosenzweig. Hein. C'est pas le prochain ou la prochaine, hein, c'est das nächste. Parce que ce qu'il appelle le prochain, c'est un fragment du monde en quelque sorte. Il dit aussi que das nächste, le prochain, neutre, c'est le lieutenant du monde, dit-il également. Et la catégorie métagrammaticale dans le système de l'étoile qui correspond à la rédemption, pour la création ce serait l'événement, pour la révélation ce serait l'expérience vécue, c'est l'action, justement. La catégorie qui gouverne la rédemption, c'est l'action en tant qu'elle est dirigée vers ce proche, ce fragment du monde, das nächste. Quelle est la teneur de cette action transmondaine, pour me tenir aux seuls éléments qui intéressent mon propos, je laisse ça aussi entièrement de côté, la question de la prière, qui est une modalité de l'action, chez Rosenzweig, la question de la liturgie, etc. Ce sont des questions absolument décisives chez Rosenzweig, mais je ne les aborde pas. L'action, c'est un travail qui s'efforce de produire l'ajointement de deux temporalités, temporalité homme et temporalité monde. Et elle consiste, je cite Rosenzweig, à faire des exigences du royaume de Dieu, des exigences pour le temps. Cette analytique de l'action rédemptrice, pour dire la chose comme ça, elle est portée par une pensée de la politique qu'on peut qualifier de messianique, par contraste avec la philosophie politique au sens strict, la philosophie politique est toujours en proie, si on peut dire, elle est prise, elle est gouvernée par la question des valeurs, par la question de la taxinomie, quel est le meilleur régime, etc. etc. Cette analytique Rosenzweigienne de l'agir mondain tient en une vision de l'histoire, j'y reviens, comme champ d'une tension incessante entre la temporalité des cultures, des civilisations, des états, des empires, ou de l'esprit chez Hegel, et l'éternité, ou l'éternisation processuelle qui est produite par l'action, qui est produite par la prière, qui est produite par l'anticipation liturgique, etc. etc. Donc l'histoire, du coup, est ouverte à l'imprévisible, à l'événement apocalyptique, aux menaces d'extermination, sur le versant politique juif de l'exil, à la catastrophe et aussi aux modalités qui la conjurent, avec des sauvetages in extremis dont Danny Trom a parlé à propos du rouleau d'Esther. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir que le grand interlocuteur invisible, innommé, etc., c'est toujours Hegel, il ne peut pas y avoir de coïncidence dialectique de ce qui est avec ce qui doit être. Du réel avec le rationnel, comme dit Hegel. Il ne peut pas y avoir non plus dépassement, des déchirements, de la tragédie de l'histoire, sous une forme de réconciliation terrestre. L'histoire, c'est au contraire ce qui se tient dans cet écart de la polarité interne, dans cette béance entre deux, l'attente et la voix, et on pourrait décliner ça indéfiniment. Et donc l'histoire rosenzweigienne est plutôt donc du côté du bruit et de la fureur shakespearienne que du côté de l'auto-accomplissement de l'esprit hegelien. Elle s'ouvre, l'histoire, indéfiniment, aléatoirement, sur l'extériorité de ce qui n'est pas elle, c'est la raison pour laquelle l'histoire ne peut pas juger. Il n'y a pas de tribunal de l'histoire. C'est la formule hegelienne, hein. Weltgeschichte ist Weltgericht, hein. L'histoire du monde, c'est le tribunal du monde. Il n'y a pas de tribunal de l'histoire, parce que s'il devait y avoir un tribunal de l'histoire, ce serait une sorte d'auto-jugement interne, en quelque sorte, dans un cercle vicieux où l'histoire s'enfermerait, tournerait en rond sur elle-même, avec des conséquences tout à fait catastrophiques. Elle est placée, dit Rosenzweig, l'histoire, je le cite, sous le signe de l'indétermination. Petite parenthèse qui a rien. C'est exactement pour cette raison et pour ces motifs qu'un philosophe comme Schelling, dont Rosenzweig était très proche, il a écrit des choses, il a même été jusqu'à dire s'il avait pu lire un texte de Schelling qui s'appelle Les âges du monde, il n'aurait peut-être pas écrit L'étoile de la rédemption. C'est évidemment une coquetterie, une exagération, mais vous voyez jusqu'où l'hommage va. Eh bien, Schelling expliquait, également contre Hegel, que l'idée même d'une philosophie de l'histoire était une idée inconsistante. Parce que l'objet même, histoire, était inconsistant, aléatoire, mouvant, insaisissable, etc. Donc, je referme cette parenthèse sur Schelling. L'histoire est placée sous le signe de l'indétermination, dans cette tension du temps et de l'éternité, je l'ai dit, et dans au fond, l'histoire, elle est sillonnée de façon perpétuelle et de façon indiscernable par le monde qui vient. L'histoire, ce serait ça, ce serait ce monde-ci, mais sillonné de façon absolument indéterminable par le monde qui vient, le Olam Haba. L'analytique rosenzweigienne de cet agir transmondain présente donc une sorte de programme minimum, si vous voulez. Ne pas laisser la politique à elle-même. Ça, c'est une expression de Lévinas. Hein, mais vous voyez qu'elle est portée par l'imitation de toute politique qu'il faut faire malgré tout. Ne pas laisser la politique à elle-même, c'est-à-dire à son illimitation congénitale, à son côté désastreux, à son hubris, son côté fatal. Ne pas la laisser, c'est déjà s'engager dans un agir. Et dans cet agir, c'est faire cette histoire malgré tout, en dépit de l'impuissance relative de ces moyens, dans le risque, dans l'aléa, etc. Dans une autre lettre que je cite toujours à Gertrude Oppenheim, Rosenzweig écrit « Tout agir dans le monde est un agir malgré tout », dit-il. L'axiome implique, et Rosenzweig lui-même le remarque, qu'il n'est pas possible de se soustraire au fond à l'exigence messianique du politique. Quand bien même une venue demeure, je l'ai dit tout à l'heure, hein, complètement aléatoire. Il y a ce passage, le texte que j'ai envoyé à Alexandre, hein, où c'est l'histoire, c'est un midrash je crois que c'est Élie qui interroge le Messie, ou un rabbin qui interroge le Messie en disant « Tu viendras quand ?»« Je viendrai aujourd'hui même », lui répond le Messie. Et puis il ne vient pas, évidemment, il ne vient pas, déception, etc. Mais comment a-t-il pu me mentir? Le Messie m'a menti. Et l'explication c'est, tu n'as pas eu l'oreille assez fine. Ce qu'il voulait dire, c'est une citation des psaumes, c'est, je viendrai aujourd'hui même si tu entends ma voix. Donc l'élément de l'aléa, il entre ou s'engouffre exactement là-dedans. C'était la venue est pour aujourd'hui même, pardon, si. Il y a donc à la fois agir toute action comme si, etc., une obligation du politique. Cette obligation éthique du politique anime ce messianisme. Qui est un messianisme, je le répète, alors j'ai utilisé ce mot de aléatoire, c'est-à-dire que il est travaillé par cette urgence d'avoir sans cesse, c'est une expression de Pascal, travailler pour l'incertain, l'expression me paraît convenir parfaitement à ce que dit Rosenzweig, et en même temps, en travaillant pour l'incertain, ce qui infiniment se est requis, c'est ce que Derrida a appelé un indécidable, et ce travailler pour l'incertain et ce travailler pour l'indécidable, pourrait-on dire également, ne n'inhibe pas l'action, c'est ça qui est important, je pense, chez Rosenzweig, n'annule pas l'action et n'entrave pas forcément la décision. Je voudrais finir sur un point. J'ai essayé d'expliquer qu'on a affaire à un penseur du politique et pas à un philosophe politique. J'espère que la différence est assez claire. Je voudrais revenir sur un point, la question de la sécularisation. Et Rosenzweig ne passe pas non plus pour un penseur de la sécularisation, bien sûr. Il me semble, c'est ce que j'ai essayé de montrer ou d'analyser, que Rosenzweig propose quelque chose comme une petite théorie de la sécularisation, très singulière, très, très stimulante, et qui éclaire le messianisme aléatoire dont je parle. Je voudrais me rapporter ici à un paragraphe de la troisième partie de l'Étoile, le paragraphe messianique de cette troisième partie, dont les contenus sont très très riches, que je ne vais pas évoquer ici dans le détail. Le titre de ce paragraphe, c'est « Les peuples du monde, de point politique messianique ». Dans ce paragraphe, le titre l'indique, il s'agit des peuples du monde, messianique signifie d'emblée séculariser. Et là, on est tout à fait ailleurs, peut-être aux antipodes, de l'usage que je viens de faire du terme messianique, en le rapportant à la tension du temps et de l'éternité, à l'attente, à l'avoir, etc. Là, on est, c'est-à-dire à tout ce qui est inséculariable, justement, hein, hors temps et hors siècle. Tout ce qui relève de ce saut de l'indétermination. Ce que nous dit Rosenzweig, c'est que un certain messianisme trouverait à se séculariser dans un certain nombre d'événements qu'il appelle johanniques. Je dirai pourquoi si c'est pas perdre trop de temps. Un certain nombre d'événements, disons, historiques. Les révolutions, en particulier, et en particulier encore pour lui la révolution de 1789. Il fait une allusion à la révolution de 1917, mais c'est vraiment 1789. Donc un certain nombre d'événements révolutionnaires essentiellement seraient des figures de la sécularisation du vieux messianisme. Mais la version rosenzweigienne de la sécularisation est tout à fait singulière. Elle est en effet analysée par lui selon un modèle qui inverse les thématisations habituelles de la question de la sécularisation. Et ce modèle est lui-même déterminé par la conception du temps et du temps historique de Rosenzweig, dont je n'ai pas dit grand-chose, là aussi faute de temps. Quelle est la représentation habituelle de ce qu'on appelle sécularisation ? De façon convenue, au moins depuis Carl Schmitt, mais même chez ceux qui critiquent Carl Schmitt, le procès de sécularisation est décrit comme le transfert de catégories passées, théologique, religieuse, vers la sphère politique, la sphère de l'actualité, de la présence, de la modernité laïque, si on est en France, ou désenchantée, si on est en Allemagne avec Max Weber. La faiblesse de cette analyse, de la sécularisation comme transfert du théologique au politique, pour dire vite, c'est qu'elle ne permet absolument pas de comprendre pourquoi les religions demeurent vivantes, et plus que vivantes, malgré le processus de sécularisation qui serait forcené depuis deux siècles, et sur un modèle qui n'aurait rien à voir avec un retour, puisqu'au fond, la sécularisation, si c'est ça, elle n'a jamais eu lieu. C'est ce qu'un penseur comme Tocqueville remarquait très tôt. Je cite juste cette petite phrase parce qu'elle est savoureuse. Les philosophes du XVIIIe siècle expliquaient que le zèle religieux devait s'éteindre à mesure que la liberté et les lumières augmentent. Il est fâcheux que les fêtes ne s'accordent point avec cette théorie. C'est encore plus fâcheux aujourd'hui, sous considération au fond de la centralité de la question du religieux, avec en particulier l'islam, etc., etc. Donc il est fâcheux, en effet, que cette théorie de la sécularisation ne permet absolument pas de comprendre ce qu'il en est du religieux, au fond. Alors, Rosenzweig, lui aussi, il analyse la politique moderne comme une forme sécularisée. Une transformation, une transfiguration, mais non pas pour lui du religieux en historique, de l'ancien en nouveau, du passé en présent, de la théologie en politique. La sécularisation pour Rosenzweig ne serait possible, au contraire, et intelligible, que depuis l'instance de la rédemption, dit-il, c'est-à-dire depuis l'avenir du monde. La rédemption, si on l'entend comme une catégorie du temps, ce que fait Rosenzweig dans l'Étoile, je ne l'ai pas suffisamment souligné, c'est un existentiel du Dasein créé, pourrait-on dire, en mimétique avec la traitant. La rédemption engage une pensée de la sécularisation. La guerre, la révolution, l'État sont des forces à la fois métamorphosée et rivale de l'apocalypse, du messie, de la mondialisation messianique du monde, etc. Là aussi, il faudrait revenir à un autre texte qui s'appelle Globus, j'ai pas le temps, qui poserait la question de la guerre. Ce renversement et cette sécularisation déterminée comme transfiguration du futur ne sont envisageables qu'à partir du postulat dynamique qui est emporté par la pensée rosenzweigienne de l'histoire et de l'extra-historicité. Qu'est-ce que veut dire Rosenzweig ? Il montre que les mouvements du présent, politiques, historiques, ne sont pas simplement propulsés par un passé qui pousserait toujours l'histoire devant soi, progressivement, linéairement. Le mot allemand qu'il utilise, c'est « Stoß », c'est-à-dire quelque chose qui viendrait du passé et qui pousserait en avant. C'est la théorie progressiste, non pas au sens macronien, bien sûr, mais au sens du progressisme des philosophies de l'histoire, justement. Ces mouvements du présent, explique Rosenzweig, sont au moins autant, peut-être davantage que par ce Stoss, attirés, tractés par le futur. Il oppose au Stoss le Zug en allemand. C'est le futur qui, attirant le présent, sécularise. Ce principe de l'attraction par l'avenir est à la fois la clé de la sécularisation, du procès de sécularisation, et la source même de l'équivoque du messianisme, du point de vue messianique. Il y aurait une tangence historiale des deux points de vue messianiques, le point de vue juif, si vous voulez, et le point de vue sécularisé, le point de vue extra-historique et les philosophies de l'histoire, et c'est à cette tangence, entre deux messianismes, devrait-on dire, hein, que se signifie pour Rosenzweig la possibilité du désastre. La sécularisation accomplit une historicisation du messianisme. Par cette attraction, par une histoire de l'avenir, si vous voulez, par l'avenir représenté comme histoire et non plus simplement comme tension entre l'instant et l'éternité. Mais une fois entré dans l'histoire, le messianisme sécularisé risque d'être pris ou est pris dans cette rivalité mimétique, sinistre, où se tient l'État, justement. Mais sans que ce soit assuré à tout coup, parce que cette attraction sécularisante peut aussi contribuer à attirer le présent vers l'avenir dans une figure plus ou moins heureuse. C'est pas exclu, on ne sait jamais, hein. La formule rosenzweigienne, c'est vraiment ça, on ne sait jamais. Dans le paragraphe messianique de la troisième partie de l'étoile, Rosenzweig prend l'exemple, évidemment, qui tombe sous le sens, de l'élection. La notion d'élection est évidemment fondamentale dans la théologie, entre guillemets, juive, c'est-à-dire que l'élection entre dynamiquement dans une économie du salut. Or, si l'élection vient à se réaliser dans l'histoire, si elle entre dans l'histoire, Peggy dit des choses voisines, si elle tombe historique, dit Peggy, alors elle se transforme en crime, en forfait. Rosenzweig utilise un mot qui l'emprunte presque à au roman policier, hein. Il dit « tat des Täters », c'est-à-dire qu'on est sur la scène d'un crime avec le messianisme sécularisé autour de la question de l'élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, évidemment, ce qu'il a en tête, ce qu'il analyse continuellement, c'est bien sûr l'avant, le pendant et l'après de la Première Guerre mondiale, à quoi il a lui-même évidemment participé comme soldat. Les guerres européennes, et évidemment en particulier la guerre de 14-18, voient s'affronter des élections, entre guillemets, rivales et opposées. Les nationalismes sont des formes sécularisées d'élections qui s'entrechoquent. La guerre apparaît comme l'effet de choc violent, meurtrier, entre des prétentions messianiques sécularisées concurrentes, telle ou telle nation, que ce soit la France ou l'Allemagne d'ailleurs, hein, Bergson et Hermann Cohen, ils consentent, ils acquiescent. Telle ou telle nation aura donc vocation à l'universalité d'une mission globale, à une vocation civilisatrice. À tel ou tel peuple sera dévolue la tâche d'une bienfaisance, ou se déterminera, telle ou telle nation se déterminera comme bienfaitrice de